Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour le dernier Culture Média de la semaine. Au menu, 2 heures de médias et de culture au sens large. Tous les médias et toutes les formes de culture. Aujourd'hui, ce sera un livre édifiant et une nouvelle série sur Netflix. Vous pouvez évidemment nous suivre en vidéo sur le site europe1.fr. Notre info média, je vais arriver à le dire. Je veux dire pourquoi je suis ému. Parce que nous serons avec Didier Quillot, le directeur général exécutif de la LFP, la Ligue de Football Professionnel. Il s'exprime pour la première fois dans une radio généraliste au sujet de Mediapro, c'est cette société espagnole à capitaux chinois à qui la Ligue a confié les droits de la Ligue 1 à partir de la saison prochaine pour 780 millions d'euros par an. Il y a beaucoup d'inquiétudes à ce sujet et Didier Quillot va y répondre. Il annonce également des nouveautés dès dimanche. Michel Simès, ensuite l'un des animateurs préférés des Français, il est soit premier, soit deuxième. Il revient ce soir avec Adrien Carambeu, là encore il est soit premier, soit deuxième, pour les pouvoirs extraordinaires du corps humain consacré aux bienfaits du froid. On va quand même laisser le chauffage dans le studio. Et puis ensuite, on va parler gilets jaunes, terrorisme, colonialisme, racisme anti-blanc, homophobie et du système scolaire qui se dégrade. Sérieux, oui, sérieux, mais avec un humoriste, Walidia, et on va se marrer. C'est un peu le principe des humoristes, vous allez me dire. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
Le journal des médias, c'est avec vous Benjamin Delsol pour commencer cette émission. Bonjour.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Alors qu'avez-vous Benjamin au menu ce matin?
Des filles qui se déshabillent, un magnifique documentaire animalier à ne pas manquer et Salto encore retardé.
Mais Benjamin, on commence d'abord par les audiences d'hier. Qu'est-ce que les Français ont regardé à la télé? Je sais un tout petit peu, c'est 1, 2, 3.
Exactement, sans soleil. 1, 2, 3 qui arrive largement en tête avec un nouvel épisode de TF1 qui arrive largement en tête donc avec un nouvel épisode de Munch. La série avec Isabelle Nanty a été regardée par 5 471 000 téléspectateurs, soit 25% de part d'audience, suivi donc en deuxième position de France 2, qui propose un nouveau numéro d'envoyé spécial consacré au cauchemar de l'isolation à 1 euro. Le magazine d'Élise Lucet a réuni hier soir 2 857 000 téléspectateurs pour 14,3% de part de marché.
Et vous avez fait un bon lapsus parce qu'ils ont réussi à faire cette audience avec un sujet pas facile, bravo.
Exactement. Et la troisième place, c'est donc pour France 3 avec le film Braquage à l'italienne, 2 236 000 téléspectateurs pour 11,4% de part de marché.
Le journal des médias maintenant, et vous nous annoncez que le lancement de Salto est une nouvelle fois repoussé.
La plateforme de vidéos payante commune à France Télévisions, TF1 et M6 devait être lancée au cours de ce premier trimestre, mais finalement, selon une information du journal Les Echos, Salto ne devrait pas voir le jour avant la rentrée de septembre.
On sait pourquoi ?
La faute à Mickey.
Ah oui,
expliquez. Plutôt à la plateforme Disney+, qui sera lancée en France le 24 mars prochain. Le journal précise que Salto n'a pas d'intérêt à se lancer frontalement face aux mastodontes du divertissement. Il devrait donc laisser passer quelques mois. Un pré-lancement pourrait cependant intervenir avant l'été auprès de quelques abonnés, soit 2 ans pile poil après l'annonce de la création de ce projet de Netflix à la française.
Et puis ce soir, après les hommes, les femmes se dévoilent sur TF1.
Vendredi dernier, ce sont entre autres Olivier Delacroix, Philippe Candeloro, Bruno Guillon et Alexandre Devoise qui se sont déshabillés devant 1200 personnes au Lido et 3 600 000 téléspectateurs aussi. Alors il n'y a pas de raison, ce soir ce sont 8 femmes qui osent, 8 personnalités qui relèvent à leur tour le défi de l'émission Star à nu sur TF1.
Oui, Arthur était là, le producteur était là pour nous en parler. Alors qui sont les filles qui ont accepté de participer?
On va notamment découvrir, c'est le cas de le dire, Maréva Galanteur, Firmin Richard, Fanny Leb, Marine L'Orphelin et même Alessandra Sublet qui présente l'émission. Elle a, comme les autres participantes, accepté de se déshabiller pour la bonne cause, pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein. L'émission de ce soir est très différente de la première. Son producteur Arthur l'évoquait ici même la semaine dernière.
Autant chez les garçons, on rit beaucoup parce qu'ils étaient très pudiques. Et donc c'était une manière de se cacher derrière l'humour. Autant chez les filles, on va vivre des moments intenses d'émotion.
De l'émotion notamment avec la chanteuse Fanny Leb qui a accepté de participer à ce projet complètement fou. Elle était tout juste guérie de son cancer du sein quand elle a dit oui. Elle explique pourquoi au micro de notre journaliste Louise Bernard.
Pour moi, ça a été clairement une thérapie. Je devais revenir sur des choses parce que je venais d'être guérie. Même si j'avais décidé à la base d'en parler ouvertement pour aider les gens en général, etc. Pour pousser les femmes au dépistage, pour ne pas avoir peur, pour parler de la féminité parce qu'il y a ce côté où les femmes justement perdent confiance en elles et c'est important de continuer à leur donner confiance. Donc quand on m'a appelé pour faire l'émission, pour moi c'était oui tout de suite parce que c'était dans la continuité de ma philosophie par rapport à ça, d'en parler. Je suis très heureuse de faire partie de ce programme qui fait passer un message fort, en douceur, avec de l'humour, avec aussi des moments sérieux, avec beaucoup d'émotions. C'est rempli de sincérité et je suis très fière d'en faire partie.
Voilà, Star à nu, c'est donc ce soir à partir de 21h05 sur TF1.
Et puis après, des stars à nu, des animaux également à poil.
Oui, alors, humour. La transition n'est pas évidente.
C'est vous qui l'avez écrite.
Oui, exactement. Ouais. Effectivement, France 2 va diffuser demain soir un documentaire animalier événement dans une case habituellement dédiée aux émissions de divertissement. Là, on est carrément dans l'émerveillement. Ce documentaire, c'est Une planète, deux mondes sauvages. Il a été produit par les Anglais de la BBC, en collaboration notamment avec France Télévisions. Deux films vont être diffusés, deux fois 90 minutes. Ouais. D'abord ce samedi, puis samedi prochain. Et le premier volet nous fait découvrir les espèces de l'hémisphère sud.
Bienvenue dans un voyage extraordinaire, à la rencontre d'animaux uniques et si rarement filmés. D'espèces encore méconnues, au comportement insoupçonné. Dans l'hémisphère sud de notre planète, un monde sauvage nous émerveille par sa beauté indomptée. Des terres extrêmes de l'Antarctique aux forêts colorées de l'Amazonie.
C'est tentant, on a reconnu la voix, c'est François Morel.
François Morel, exactement, avec cette voix incroyable. Et qui fait en gros ce qu'avait fait André Dussolier longtemps, c'est-à-dire commenter des documentaires animaliers. C'est un vrai exercice de comédie. Et là, François Morel raconte ce qu'il voit. Il sait s'effacer face à la beauté des paysages, la force des séquences avec ces animaux qui nous scotchent littéralement à l'écran. Notre journaliste Louise Bernard lui a demandé comment il a réagi lorsqu'il a découvert ces images.
Moi, je suis juste un passeur pour mettre en valeur ces images-là. Il y a des images absolument étonnantes. On voit des attaques d'ours blancs contre des baleines beluga, par exemple. Moi, il y a des images que j'avais jamais vues. Par exemple, il y a un moment où on voit des lucioles dans la nuit. Je crois que c'est dans les forêts d'Amérique du Nord. Il y a eu des espèces d'attaques entre les araignées et les lucioles. C'est extraordinaire.
Extraordinaire, c'est vraiment le mot qui résume ce documentaire. Tout est géant, et notamment la production. C'est 1500 personnes qui ont travaillé sur ce projet. Elles ont visité 41 pays, ont tourné pendant 1794 jours, c'est précis. Ça fait quasiment 5 ans de tournage, 5 ans à suivre des phoques, des manchots, des pumas, des ours, des chimpanzés, des guépards, mais aussi les kangourous, les araignées sauteuses, les diables cornus et les requins d'Australie.
Et justement, l'Australie où plus d'un milliard d'animaux sont morts récemment à cause des feux qui ont ravagé le pays.
Et oui, donc on y pense évidemment en regardant ce documentaire. Le documentaire a été tourné avant, mais le changement climatique est omniprésent. Dans ces régions sauvages, bouleversées par le climat qui change, les animaux doivent déployer des stratégies pour s'adapter, pour survivre. On voit tout ça très bien dans le film. Et d'ailleurs, pour François Morel, il y a un message important là-dedans.
Je trouve quand même temps, ce qu'on me fait lire n'est pas anxiogène. C'est-à-dire que ça dit aussi aux gens qu'on peut prendre notre avenir en main. Et ce n'est pas juste pour se désespérer, au contraire.
Et Une planète, deux mondes sauvages, c'est donc à voir demain soir sur France 2 et dès maintenant sur le site de France Télévisions.
Merci beaucoup Benjamin Delsol, à lundi.
À lundi.
À suivre l'infomédia du jour, on va avec notre invité Didier Quillot, le directeur général de la Ligue de football professionnel, revenir sur la firme espagnole Mediapro, à qui la Ligue de football professionnel a accordé les droits de la Ligue 1 et de la Ligue 2 à partir de cet été. Et on en parle dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Et c'est leur Philippe de l'Info Média du jour.
C'est le nerf de la guerre en matière de télévision, les plus grosses audiences et de loin des chaînes hertziennes, et la première cause d'abonnement des chaînes payantes, le football. Le socle, c'est la Ligue 1, le championnat de France, pour lequel se battent Canal+, Bein Sport, Orange, RMC Sport et tant d'autres que j'oublie. Or, voici qu'une révolution arrive à partir de cet été, à partir de la nouvelle saison. Les opérateurs traditionnels ont été coiffés au poteau par un nouveau venu, la Ligue de foot professionnelle, la LFP, a accordé les droits de la Ligue 1 à Mediapro, firme espagnole aux capitaux chinois, pour la somme record de 780 millions d'euros par an. Bonjour Didier Quillot.
Bonjour Philippe.
Vous êtes le directeur général exécutif de la LFP. C'est votre première interview à ce sujet. Merci beaucoup d'avoir choisi Culture Média. On va parler du championnat 2020-2021. Mediapro a annoncé qu'il lancera sa future chaîne le 25 juillet prochain au prix de 25 euros par mois. Est-ce que vous confirmez d'abord cette information ?
Alors, avant de répondre à votre question, Philippe, je voulais corriger deux propos.
Allez-y.
Donc, premièrement, à partir de la saison prochaine, donc nous aurons pour la Ligue 1 deux diffuseurs,
oui.
Canal+.
Oui.
Je commence par notre partenaire Canal+, qui est le compagnon de la Ligue depuis 35 ans, donc, et qui a racheté le lot qui avait été acheté par Bein. Donc on aura Canal+, qui aura deux affiches. Donc,
C'était juste ma question de la page suivante.
Ah,
mais
pardon,
allez-y.
Non, mais comme c'est vrai que le teaser était très bon sur Mediapro, je veux en effet rappeler qu'il y aura deux clients pour la Ligue, Canal+, et Mediapro, effectivement. Ce ce groupe espagnol qui a acheté donc l'essentiel de la Ligue 1, puisqu'il aura 8 matchs sur 10, donc pour un montant de 780 millions d'euros. Mais si on rajoute ce que Canal+ va payer et ce que Free va payer pour ce qu'on appelle le lot digital, le New York Live, ça fait 1,2 milliard, donc qui a été de produits à recevoir pour la Ligue pour ses droits à partir de 2020. Et donc on a ainsi rattrapé le retard par rapport aux grandes nations européennes, à part les Anglais qui sont très loin devant. On est maintenant au niveau
des
pour
Espagnols.
Les droits domestiques des Espagnols, des Allemands, et on est devant les Italiens.
Alors,
concernant le montant du prix, Julien Berjou, le directeur général de Mediapro, s'est exprimé cette semaine et il a confirmé que, en effet, la chaîne Mediapro serait bien lancée d'abord son prix serait autour de 25 €. Il n'a pas été très précis, mais il a dit autour de 25 €.
On pourra voir la chaîne sur toutes les boxes, ou est-ce qu'ils vont signer, Mediapro, des accords exclusifs avec tel ou tel ?
Je crois que leur stratégie de distribution est agnostique, comme ils ont dit, c'est-à-dire qu'ils veulent signer avec tout le monde. Il n'y aura pas d'exclusivité. Je pense que, pour reprendre les termes de Julien Berjou, donc ils ont évoqué le fait de signer avec des distributeurs traditionnels, mais aussi les nouveaux entrants comme les GAFA, dont je crois qu'il faut leur laisser le temps. Vous savez, ça va démarrer fin juillet pour la Ligue 2, ouais. Début août pour la Ligue 1. Dans ces accords de distribution-là, ça traîne toujours un peu parce qu'il y a un peu de rapport de force entre les uns
et les autres. Ils sont en train de négocier actuellement.
Je pense qu'ils le sont, en effet.
Comment la chaîne va-t-elle s'appeler ?
Je ne peux pas répondre à cette question.
Vous le savez. Ils n'ont pas voulu le dire. Et je me suis dit, Didio Kio doit le savoir, mais il ne va pas nous le dire.
Je ne peux pas répondre à cette question.
Mais vous le savez.
Vous savez qu'il y a... j'ai des informations, certainement pas toutes, mais j'ai des informations. Mais vous savez, c'est vrai qu'il y a une part de mystère, mais cette part de mystère, elle est tout à fait volontaire, puisque la Ligue, pour protéger les diffuseurs actuels, Canal+ et beIN, nous avons exigé de Mediapro, par contrat, qu'il ne communique pas sur le contenu détaillé de son offre, sur le nom de la chaîne, sur le nom des journalistes avant le mois de mars. Et donc, c'est pour protéger les diffuseurs actuels que nous avons mis cette clause dans notre appel d'offres. Pas de communication du nouvel entrant avant mars 2020.
Alors, vous parliez du prix. Mediapro a annoncé le prix de sa chaîne autour de 25 € par mois pour 8 matchs. On exclut les 10 premiers choix de chaque saison et de très nombreux magazines. Est-ce que ce prix vous semble juste, Didier Quillot ?
Non, je ne vais pas commenter le marketing des opérateurs. Je pense que, vous savez, les telcos auront un rôle important parce qu'on l'évoquait à l'instant, il y aura des accords de distribution qui vont être signés. Il y a eu un accord de distribution exclusif qui a été signé entre beIN et Canal+. Je pense que Canal+ va avoir une offre packagée, comme l'on dit, attractive. Je n'ai pas de doute par rapport à cela. Je sais que Canal+ sera inventif en matière de marketing et de pricing de son offre. Je pense que Mediapro le sera aussi. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, pour regarder du foot en Angleterre, c'est entre 70 et 80 €. En Espagne, c'est entre 80 et 90 €. Donc je pense que peut-être que pour le client final, entre guillemets, pour le téléspectateur, ceci paraît cher, mais c'est le prix que nos homologues européens font payer. Et je ne vois pas pourquoi la France, ça serait moins cher.
Parce qu'il y a une tradition, en France, on est toujours un petit peu en retard. Si on ajoute le prix de l'abonnement, il y a plein de gens qui sont abonnés à Canal et à beIN Sport. Le prix de l'abonnement Canal, 19,90 €, beIN Sport, 15. Si on ajoute, ça fait 35 à la louche. Si on rajoute 25 de Mediapro, ça fait 60. Vous pensez que ce n'est pas rédhibitoire ?
Ce que je pense, c'est que Canal+ et beIN ont signé un accord. Donc on peut penser qu'il y aura un packaging de l'offre par Canal+ et que les prix que vous citez, Philippe, aujourd'hui, seront certainement plus bons au mois de juillet, au mois d'août. Et donc on aura finalement des prix qui seront de l'ordre, à mon avis, de ce qui se fait aujourd'hui, c'est-à-dire pouvoir l'ensemble du foot une 50aine d'euros, entre 40 et 50 €.
Canal, qu'on disait moribond, vous l'avez dit, va finalement rester le diffuseur de la Ligue 1 grâce à un accord surprise qui a été négocié avec son ex-rival beIN Sport, près de 330 millions d'euros par an. J'explique, beIN Sport avait raflé les droits de la Ligue 1 pour la période 2020-2024, mais il va les revendre à Canal+, à prix coûtant, paraît-il. Est-ce que vous avez participé à cet accord ou est-ce que cela s'est fait sans vous ?
Alors, on avait prévu dans le règlement de l'appel d'offres la possibilité de sous-licencier. C'est que quelqu'un qui gagnait un ou des lots pouvait les sous-licencier et dont nous n'avons pas à valider cet accord de sous-licence, dès l'instant, bien sûr, où c'est un opérateur reconnu. Donc, dès l'instant où beIN sous-licencie les deux matchs qu'il avait achetés à Canal+, dont nous n'avons bien sûr aucune raison de nous opposer à cela. Donc on n'a pas été partie prenante de cet accord de sous-licence, mais il n'était pas prévu que nous le soyons. Je suis très heureux que Canal+ reste le client de la Ligue. Il est notre compagnon depuis 35 ans, depuis la naissance de la chaîne Canal+ en 1984. Dans mon souvenir même d'anciens combattants, entre guillemets, Canal+, c'était dans cet immeuble.
Bien sûr.
Je suis venu visiter Canal+ dans ce même immeuble où nous sommes ce matin. Et en tant que maintenant directeur directeur général de la Ligue. Je suis très heureux que Canal soit là. Les clubs sont très heureux aussi. On a un client historique, compagnon de la Ligue depuis 35 ans, et un nouvel entrant qui va amener des innovations technologiques. On va en parler peut-être, des innovations technologiques.
On va en parler même. Ouais.
Un savoir-faire qu'il a développé avec la Liga. Donc, on a deux clients à partir de la saison
prochaine.
Vous
dites ça avec un immense sourire, et je vous crois absolument sincère sur le fait que Canal+ reste avec vous, mais ils ont failli tout perdre.
C'est pas à moi de commenter ce qui s'est passé pendant l'appel d'offres. Nous, on a fait notre boulot qui consiste à identifier les acteurs potentiels du marché, français, européens et internationaux. On avait fait le tour du monde pour essayer de faire venir des acteurs parce qu'on considère que la Ligue 1 est attractive. On considère qu'elle est au niveau des grandes ligues européennes aujourd'hui. Donc, on l'a bien vu. D'ailleurs, les chiffres qu'on a obtenus témoignent de cet intérêt nouveau et de cette attractivité. Ensuite, la stratégie des uns et des autres, lorsqu'ils participent à l'appel d'offres, elle leur appartient. Nous, on avait fait un appel d'offres que certains ont considéré comme machiavélique, nous on dirait plutôt sophistiqué, et en tout cas il était sophistiqué pour atteindre l'objectif qu'on s'était fixé, c'est-à-dire maximiser la valeur de nos droits.
Vous savez ce qui est machiavélique ? C'est à la place de l'adjectif machiavélique le remplacer par l'adjectif sophistiqué.
Pas
je vous reconnais bien là, Didier Quillot, je reconnais bien là votre talent. Vous restez avec nous parce qu'on va parler des nouveautés qui arrivent dès dimanche, pas la saison prochaine, dès dimanche.
Le directeur général de la Ligue de football professionnel Didier Quillot est notre invité pour parler ce matin de Média Pro, prochain diffuseur de la Ligue 1 et de la Ligue 2 qui diffusera à partir de cet été 80% des matchs dont les 10 plus grosses affiches en exclusivité. On continue à en parler dans un court instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Une nouvelle chaîne arrive pour diffuser les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 à partir de cet été. Chaîne qui appartient à Média Pro, une firme espagnole à qui la Ligue de football professionnel a accordé les droits de diffusion. Et pour en parler avec nous ce matin dans l'info média du jour, Philippe, Didier Quillot, le directeur général de la Ligue de football professionnel.
Et comme nous disait Didier Quillot, une part des droits pour 780 millions par an et la globalité des droits, c'est 1,2 milliard d'euros par an. Une actu immédiate, Didier Quillot, grande nouveauté que vous lancez dimanche pour le match PSG-Lyon. Ce sera au Parc des Princes, mais surtout sur Canal+. Une nouvelle technologie dans laquelle on peut voir les actions à 360 degrés de n'importe quel point de vue. Racontez, qu'est-ce que c'est que ça ?
D'abord, c'est une technologie dont nous sommes très fiers, que nous avons achetée auprès de Intel, donc l'acteur américain, donc l'industriel américain qui s'appelle TrueView. Donc en fait, c'est une technologie très immersive. C'est comme si les caméras étaient dans les yeux des joueurs. Vous avez 38 caméras, donc sur le toit du Parc des Princes. C'est relié donc à un studio qui traite les images par de la fibre optique. Et ensuite, vous avez une impression immersive. Donc vous avez des caméras avec des caméras et qui montrent des ralentis comme si vous étiez à la place du joueur à 360 degrés.
C'est-à-dire qu'avec l'intelligence artificielle, elle fabrique l'image que serait celle d'une caméra qu'on aurait mis, par exemple, les yeux de...
Quand vous tirez un coup franc, si Mbappé tire un coup franc ou Neymar tire un coup franc, on a l'impression que la caméra est dans ses yeux et donc il tourne la tête comme ça, il fait un mouvement à 360. On a testé ça pendant PSG Montpellier, ça n'a pas été en live à l'antenne, ça sera en live à l'antenne pour PSG OL dimanche soir. Sur un centre de Mbappé, par exemple, on voit Mbappé qui regarde avec sa tête où est placé, je ne sais plus sur qui il centre, sur Cavani, je crois, où est placé, et on voit le mouvement que fait ça. Enfin, comme si on était dans son cerveau ou dans ses yeux. Donc, ça, comme dans un jeu vidéo, en fait. Il y a une dimension très jeu vidéo.
C'est incroyable.
À 360, c'est très entertainment, je dirais. Ouais. Je pense que ça parle beaucoup aux jeunes. Et c'est des incrustations. Donc, il y a un studio dans lequel il y a des techniciens d'Intel qui envoient entre 8 à 10 fois en push l'image retraitée, au ralenti. Et ensuite, c'est le réalisateur, en l'occurrence Laurent Lachand de Canal+, qui décide s'il le met à l'écran ou pas.
Raconté comme ça, ça a l'air d'être une merveille, on a trop envie de le voir.
Le final cut, entre guillemets, appartient toujours au réalisateur de Canal, en l'occurrence dimanche, qui devra décider ou non de passer ses images à l'antenne, mais je pense que Laurent le fera, bien sûr.
Oui, mais en dehors du jeu vidéo, moi qui adore le foot, est-ce qu'on va se voir, par exemple, en train de sauter pour prendre une tête ?
Alors oui, normalement oui. Enfin, moi, ce que j'ai vu des images de PSG Montpellier, je vous dis, c'est ce centre de Mbappé, c'est le but de Di Maria dans lequel il fait un lob sur le gardien de Montpellier et on voit le ballon. Enfin, je saurais pas le raconter.
Je comprends ce que vous voulez dire. On comprend du point de vue de Di Maria où est le gardien, donc quel lob il faut mettre et quel petit dosage il faut mettre.
Ça, et ensuite la caméra tourne et on se met derrière le but.
Et attendez. Et est-ce que vous montez aussi les ratages ? Est-ce qu'on peut voir Kurzawa qui se trompe et qui centre n'importe où ?
Non, une fois plus. Non, je ne pense pas. Je pense que les techniciens de Intel et le réalisateur montreront.
Ils sont bienveillants.
Enfin, c'est eux qui décideront de ce qu'ils montrent, en fait. Ouais. Donc, ça existe en Espagne. C'est déployé en Espagne sur 7 stades. Ouais. En Angleterre, sur 3 stades, City, Arsenal et Liverpool. En France, donc, pour la première fois, dimanche, au Parc des Princes. Ça sera déployé ensuite à Marseille, au Stade Vélodrome, et à Lyon, au Groupama Stadium. Donc, à partir de la saison prochaine. Et je suis très heureux de cela parce qu'on le fait. Intel nous a choisi avant la Bundesliga et avant la Serie A. Donc, c'est une preuve que la Ligue 1 est devenue. Alors, le patron de Intel qui était là hier avec nous disait la Ligue 1 est une ligue iconique. Ouais. Donc je reprends ces termes qui sont évidemment très flatteurs pour notre championnat.
Qui paye ? C'est vous ? C'est la Ligue ou c'est le diffuseur Canal+ ? C'est vous qui payez ?
C'est la Ligue qui, pour moi, ça contribue à améliorer l'expérience télévisuelle, à améliorer le côté éditorial pour le téléspectateur. La Ligue 1, c'est un produit. Ouais. La réalisation audiovisuelle, c'est une façon de magnifier ce produit. Et donc, c'est de la techno qu'on met à la disposition des diffuseurs.
Est-ce que vous allez louer cette technologie, vu que maintenant les caméras sont installées sur le Parc des Princes, pour les matchs de Canal en Champions League ? Ou est-ce que ça reste une exclue Ligue 1 ?
Alors, ça reste une exclue Ligue 1 pour l'instant, de la même manière que c'est une exclue Liga et Première Ligue. Maintenant, c'est vrai que le dispositif est déployé, voilà. Donc au Parc des Princes. Donc
à eux de vous faire une offre.
Écoutez, on n'a pas encore parlé avec l'UEFA de cela, mais pourquoi pas ? Enfin, les diffuseurs de, enfin l'UEFA. Et les diffuseurs de la Champions League, aujourd'hui RMC, pourraient en effet utiliser nos caméras. Pourquoi pas ?
Est-ce qu'on pourra s'en servir quand il y a un cas de litige arbitral, comme une sorte de super VAR ?
Non, ce n'est pas une super VAR. Ça n'a pas vocation. Donc la VAR, c'est Okai, donc la filiale de Sony, qui fournit le dispositif audio et vidéo de la VAR. Ouais. Donc ça n'a pas vocation ni à se substituer, ni à compléter la VAR.
La VAR, c'est l'arbitrage vidéo. C'est l'acronyme anglais. Vous allez également lancer une chaîne, la LFP. Qu'est-ce qu'on va voir sur votre chaîne ?
Alors, plutôt qu'une chaîne, on va lancer une plateforme OTT, ouais, à partir de l'été prochain, pour l'international uniquement. Pourquoi ? Parce qu'il existe encore des pays où malheureusement nous ne sommes pas diffusés. Mmh. Aussi surprenant que ça puisse paraître, la Ligue 1 n'est pas diffusée en Belgique, en Hollande, en Pologne par exemple. Donc dans ces pays-là où nous ne sommes pas diffusés, on va y aller nous-mêmes, donc en B2C comme l'on dit, avec une plateforme OTT, donc un player vidéo, une plateforme OTT pour être diffusé là où nous ne le sommes pas et là où nous sommes diffusé pour venir apporter du servicing, comme l'on dit, des contenus additionnels, des contenus d'archives, des contenus digitaux à nos diffuseurs actuels.
OTT, c'est-à-dire en direct, sur l'ordinateur, il n'y a pas besoin d'avoir une box. Ça sera payant, ça sera gratuit ?
On n'a pas encore défini le modèle, parce que alors, là où on est déjà diffusé, ça sera sous forme de add-on que l'on fournira aux diffuseurs actuels. Et là où nous ne sommes pas, ça sera une chaîne avec un pricing qui est à définir.
Pricing, c'est le prix. Dernière actu immédiate, ce soir, il y a un match avancé de Ligue 1 Angers-Lille. Saïd Chaban, qui est le président du club d'Angers, a été mis en examen pour agression sexuelle aggravée. Il a fait savoir qu'il assisterait à la rencontre au match de son équipe depuis sa place habituelle dans les tribunes. Et vous, est-ce que vous serez à ce match ?
Alors, d'abord, j'ai pour règle de ne jamais commenter des affaires qui sont en cours d'instruction en justice, petit 1. Et petit 2, non, ce week-end, je serai sur PSG Lyon. Et ce soir, j'ai effectivement un événement familial, donc je ne serai pas à ce match. Mais j'aurai évidemment l'occasion d'aller à Angers, comme je vais dans tous les stades depuis le début de la saison.
Sans vous prononcer sur l'affaire Saïd Chaban, qu'est-ce que vous pensez de la volonté de transparence et de libération de la parole dans le sport voulue par la ministre Roxana Maracineanu ? On a vu toutes les affaires qui touchent le patinage, mais pas seulement.
Non, je pense que la transparence doit être le maître mot. Il n'y a pas de débat là-dessus, la transparence doit être le maître mot. Je regarde bien sûr ce qui s'est passé dans le patinage artistique, mais je ne souhaite pas commenter. C'est des instructions en cours, je ne souhaite pas les commenter.
Merci beaucoup Didier Quillot, merci d'avoir choisi Culture Média et Europe 1 pour nous parler de Média Pro, de votre projet de chaîne OTT, que de termes et d'anglicisme. Directeur général exécutif de la LFP, et il faut regarder dimanche sur Canal, on va voir le match des yeux de Neymar et d'autres.
Merci.
C'est Michel Simès qui est notre prochain invité. Il a une actualité bouillonnante et va pourtant nous parler des bienfaits du froid dans l'une de ses émissions. On l'accueille dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
Et dans Culture Média ce matin, on est ravis d'accueillir Michel Simès, Philippe.
Bonjour Michel Simès.
Bonjour Philippe.
Vous êtes l'un des animateurs préférés des Français, faut-il le répéter. C'est d'autant plus admirable que vous n'êtes pas animateur, mais vous êtes médecin. Pour de vrai, ça vous fait rigoler. Vous consultez toujours deux fois par semaine,
c'est
je ne me trompe pas.
C'est ce que dit Nagui.
Vous avez présenté sur France 5 le magazine de la santé, Allô Docteur, et là sur France 2, vous continuez les pouvoirs extraordinaires du corps humain avec votre complice Adriana Carambeu. Nouveau numéro ce soir, consacré au froid et à l'hiver. J'ai vu l'émission et je vais vous le dire, j'ai adoré parce que c'est contre-intuitif. Vous envoyez plein d'idées reçues. Par exemple, prendre froid, vous n'aimez pas cette expression?
Mais parce que ça ne veut rien dire, prendre froid. Vous savez, il y a des gens qui pensent qu'en sortant la tête mouillée dans le froid, vous allez attraper la grippe ou un rhume.
Eh bien, je l'ai toujours pensé jusqu'à cet instant.
Mais oui, mais
dites-moi pourquoi c'est faux.
Ben parce que, est-ce que vous pensez qu'un virus va passer par vos cheveux pour rentrer à travers le crâne, pour rentrer jusqu'à votre nez? Non.
Non.
C'est vrai. Voilà. Hein, une maladie, c'est lié à un virus.
Ouais.
C'est pas parce que vous sortez les cheveux mouillés que vous allez attraper froid, ni parce que vous marchez sur le carrelage les pieds nus. Pourtant, nos mamans nous ont dit ça pendant toute notre enfance.
Ouais, et alors
ben, c'est des conneries.
Et pourquoi c'est faux?
Ben, c'est faux pour ça, parce que...
Mais pourtant, pareil. Les gens sont plus malades en hiver,
même
quand même.
Même s'il y a un virus sur le carrelage, est-ce que vous pensez qu'il va rentrer dans vos plantes de pieds pour remonter? Non, c'est faux. Tout ça, c'est des...
Le froid,
on pense que ça diminue l'efficacité du système immunitaire et que effectivement, s'il y a un virus qui passe, il va avoir plus de facilité pour rentrer. Voilà.
Alors, ce que j'ai appris dans l'émission, c'est qu'en fait, pourquoi on est plus davantage malade en hiver, c'est parce que comme il fait froid, les gens se regroupent dans les transports
bien
en commun, en train de prendre du vin chaud.
Mais c'est la promiscuité qui est le vecteur de transmission des virus. D'ailleurs, on le voit avec le coronavirus.
Oui.
L'idée, c'est plus vous êtes confiné, plus vous êtes dans des endroits d'où vous ne sortez pas, plus vous allez dans les transports collectifs et tout, et plus vous risquez, puisque en plus les virus se développent beaucoup plus facilement dans les températures basses, et voilà.
Il y a des images absolument somptueuses, magnifiques, une école maternelle en Laponie, avec des petits-enfants qui jouent dans la neige, ils les sortent jusqu'à moins 25 degrés, aucun n'a froid, aucun ne tombe malade,
aucun
c'est ça qui est
froid.
Fou.
Alors ils les couvrent bien, nous on était gelés avec Adriana, et on les voyait sortir, et c'était assez fascinant de voir ces gamins. Alors, vous me direz qu'il y a la génétique, il y a l'éducation, il y a le fait que ces gamins vivent dans le froid toute l'année, donc ils sont beaucoup plus préparés à ça que nous, mais effectivement, la récré, elle se passe sous moins 25.
Et il y a même pire, il y a les petits bébés d'un an qui font la sieste dehors.
Absolument, ils sont bien couverts, hein, vous avez vu. Mais...
Et la mortalité a baissé, c'est ça qui est dingue.
Oui, parce que finalement, d'abord, à moins 25, il n'y a pas beaucoup de virus qui se baladent,
ouais.
Et puis ces gamins ont un organisme qui est prêt à lutter contre les effets du froid, puisqu'ils sont habitués à ça depuis leur naissance.
Alors dans l'émission, on voit tous les avantages du froid pour la santé, ils sont nombreux, ça améliore la circulation, ça calme des douleurs musculaires, plein de choses comme ça, ça peut faire baisser le stress. En Finlande, vous êtes allé dans un sauna, il y a un sauna pour 3 habitants, donc c'était facile à trouver. Vous êtes avec une guide et elle vous explique pourquoi le sauna est une pratique très courante, d'où Michel, votre question.
Qu'est-ce que vous savez en Finlande des effets bénéfiques sur la santé du sauna ?
Il a été prouvé scientifiquement que ça améliore la circulation sanguine, mais aussi que le cerveau libère des endorphines et que donc ça permet de lutter contre le stress. Du coup, on se sent mieux. Et c'est bénéfique aussi si vous avez mal quelque part. Ça calme les douleurs musculaires.
Vous savez ce qui m'a fait marrer dans cet extrait ? C'est on apprend que la chaleur améliore la circulation, fait baisser le stress et calme les douleurs. Et juste avant, on nous a dit que le froid améliorait le... Ouais, donc en fait, tout est pareil.
En fait, les extrêmes, l'intérêt du sauna, effectivement, d'abord, c'est de vous détendre. Tous les gens qui vont dans un sauna savent que ça détend, on transpire, on est bien, il y a de ces calmes. Et après, effectivement, alors ce qu'ils font là-bas et ce que j'ai testé, et là, je peux vous dire que si j'ai libéré des endorphines, je les ai pas ressenties immédiatement, c'est de plonger dans la neige, tout nu.
On était
à la télé, donc j'ai un maillot. Après être allé au sauna. Et là, c'est comme si on m'envoyait un chalumeau sur le corps. Il paraît que ça fait du bien. Alors, vous savez, on parle des effets du froid, mais regardez la cryothérapie aujourd'hui, le fait de rentrer dans les cabines à moins 120, c'est des choses qui permettent effectivement de détendre les muscles, de sécréter des endorphines.
J'allais en parler, j'ignorais que c'était à ce point-là. Une dame souffrait d'hernie. Elle fait 3 minutes à moins 110. En 7 séances, elle n'a plus jamais mal. Ça paraît presque trop beau pour être vrai.
Parce que ça calme. C'est un anti-inflammatoire extraordinaire, le froid. Donc, quand vous allez dans des cabines de cryothérapie, où il y a même des appareils qui permettent pour les sportifs de haut niveau de traiter par le froid certaines zones du corps, notamment les articulations, il y a une sécrétion d'anti-inflammatoire naturel qui fait que vous avez moins mal. Tous les gens qui font de la cryothérapie vous diront aussi que le soir, ils dorment très bien, même après une séance de 3 minutes dans moins 120.
Alors, il y a une jeune femme qui a des problèmes de sommeil. Elle entre dans la cabine. Mais alors, écoutez bien, comme elle est frileuse, elle a le droit de se couvrir. Donc, elle met un bonnet, un cache-nez, une écharpe. Et je me dis, mais on est chez les fous. Et tu rentres dans du froid, mais tu t'habilles chaudement pour que ce soit moins froid.
Non, l'idée, c'est de protéger les extrémités. Même quand vous faites des séances de cryothérapie, il y a des parties qui sont très sensibles dans l'organisme, notamment les oreilles, les mains et les pieds. Et quand on fait une séance de cryo, il faut toujours se protéger ses extrémités pour pas avoir de problème.
Alors, on n'est pas tous égaux face au froid, ça on le savait, on s'en doutait. Il y a une séquence qui ne va pas faire plaisir aux féministes et encore moins aux adeptes de la théorie du gender fluide. Vous connaissez ça, les non-binaires, ceux qui pensent que chacun se choisit son sexe. Les hommes et les femmes sont-ils égaux face au froid? Réponse.
Sommes-nous tous égaux face au froid? C'est horrible, c'est injuste, mais la réponse est non. Prenons pour exemple cette famille. Déjà, entre les hommes et les femmes, c'est différent, comme l'explique Jean-Paul Richalet, spécialiste de l'adaptation aux environnements extrêmes.
La différence, c'est au niveau de la circulation. Si la circulation est plus faible, eh bien, il y a moins de sang chaud, donc on a l'impression d'avoir froid.
Et les femmes ont une moins bonne circulation sanguine aux extrémités du corps. C'est lié aux œstrogènes, l'hormone sécrétée par les ovaires. Ce n'est donc pas une légende. Les femmes ont plus souvent les mains et les pieds froids.
Voilà, vous allez vous faire engueuler par les féministes.
Ouais, bah, c'est comme ça. Vous avez remarqué qu'on n'était pas tous pareils chez les femmes et les hommes. Il y a quelques petites différences anatomiques. Et Adriana, par exemple, elle souffre beaucoup parce qu'elle a ce qu'on appelle un syndrome de Raynaud. C'est-à-dire que ces fameux petits les vaisseaux extrémités. Qui sont aux extrémités des doigts se ferment quand elle est exposée au froid. Et ça, voilà, ça lui fait mal. Donc, c'est pas, je ne crois pas que ce soit... On s'est éclaté pendant ce tournage en Laponie, mais je ne suis pas sûr que ce soit le moment le plus sympa de notre carrière télévisuelle.
C'était bon aussi, ce tournage?
C'était bon,
délicieux.
Très très bon. On a mangé de la viande de renne, mais qui est extraordinairement bonne. C'est une viande très maigre, forcément. Ouais. Et c'est franchement les ragoûts de trucs. Alors, j'ai mangé des œufs de poisson, ça a été un peu plus bizarre. Mais c'était excellent.
Non, mais ils ont mangé des crêpes au sang de renne, juste avec du sang de renne, avec du gras de renne. Ouais. Alors, moi, j'imaginais qu'Adriana Carambeu, elle est dégoûtée. Elle dit: ah non, pas du tout, ça me rappelle la Slovaquie, mais nous, on faisait ça avec du porc. Alors, c'est une espèce de grosse galette de sang et de gras. Ouais. Mais attendez, Céline Dacosta. Ça, c'est pas fini. Ouais, ouais. Et là-dessus, il tartine ça de confiture. Ouais. Ça fait un salé sucré.
Non, ça, c'était un peu parti.
Non, mais, franchement,
c'est un peu particulier.
Même mais... à Fort Boyard, ils osent pas.
Ouais, non, c'est un peu particulier. Mais vous savez, dans l'émission, il faut qu'on fasse de tout. Et effectivement, Adriana, dont on pourrait se dire, oulala, mais comment elle va faire pour manger ça? Mais elle fait tout. Elle mange tout, elle fait tout. Il n'y a aucun problème.
Et vous donnez aussi un conseil d'alimentation quand il fait froid. Donc, c'est maintenant, en hiver, vous dites des graisses et du sucre. Vous n'êtes pas sérieux?
Oui, alors je vais me faire taper dessus parce que le sucre, vous savez que c'est notre pire ennemi. Mais bon, en même temps, il faut quand même recharger l'organisme qui dépense beaucoup pour maintenir la température corporelle à 37. Et donc, il a besoin de beaucoup plus de calories l'hiver que l'été. Donc, si vous devez prendre un petit peu de calories et un peu de sucre, c'est plutôt l'hiver qu'il faut le faire.
Et les graisses aussi.
Également. Et les graisses également. Mais les graisses, vous savez, on arrête de dire que les graisses, c'est le grand ennemi. Hein. Ouais. Il faut au contraire. On est de plus en plus amené à conseiller de manger du gras. Pas que ça, c'est pas la peine de manger que des plaquettes de beurre. Mais le gras, c'est pas le pire ennemi qu'on disait avant.
Vous restez avec nous?
Moi, je reste
parce
avec
qu'il y a
vous
tellement
voulez.
De choses et tellement d'actualités. Internet, une autre émission, un magazine, en plus ça marche. Michel Simès avec nous.
Oui, notre invité dans Culture Média pour parler de toutes ces émissions. Une riche actualité, on y revient dans un court instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Les pouvoirs extraordinaires du corps humain, ça ne sortira pas d'ici. Le live ou encore Dr Good, ce sont toutes les émissions que présente ou co-présente notre invité Michel Simès, Philippe.
Oui, Céline l'a cité, ça ne sortira pas d'ici, c'est votre talk show. Vous avez rempilé pour une saison, donc ça veut dire que ça marche. Il y a du nouveau dans l'équipe, Nicole Ferroni a quitté l'émission.
Oui, elle a été remplacée par Jenny Anne, qui est une Québécoise. Ouais. Et voilà, parce que Nicole avait d'autres projets et que... Et qu'elle voulait faire autre chose. Et Jenny Anne est géniale, on se régale. C'est mon assistante dans l'émission, une assistante qui n'hésite pas à me tacler quand elle en a envie. Elle a carte blanche pour tout faire. Et ça se passe très très bien. Et effectivement, l'émission marche très très bien. Là, on repart pour 8 émissions à partir de la semaine prochaine. Et c'est vraiment une émission dans laquelle je me régale. D'abord parce que j'invite que des gens que j'aime bien. ou des gens que je connais pas mais que j'apprends à connaître et l'émission cartonne.
Pour qui ne connaît pas le principe, j'explique, vous recevez des invités. Alors mercredi prochain pour la première de la saison 2, ce sera Lucien Jean-Baptiste, Richard Berry, Frédéric Becbédé et Wendy Renard, la footballeuse. Comme si c'était une consultation médicale avec votre assistante dont on vient de parler, vous leur faites parler de leur maladie, de leurs troubles, de leurs petits bobos. Mais j'ai une question sérieuse, vous avez dû le remarquer, comment expliquez-vous qu'il y ait autant d'hypochondriaques dans les métiers de spectacle ?
Il y en a beaucoup dans les métiers du spectacle, comme il y en a beaucoup dans tous les métiers dans lesquels on ne peut pas se permettre de tomber malade. Un acteur qui va jouer une pièce ne peut pas se permettre de tomber malade parce qu'il ne va pas pouvoir la jouer, donc ça les rend encore plus anxieux à l'idée d'être malade. C'est des gens qui sont très stressés en général, mais vous savez, il y en a beaucoup dans le milieu journalistique, il y en a beaucoup dans plein de milieux. Et je suis en première ligne parce que comment on m'appelle très souvent, moi je suis une garde de triage, hein, ouais. On m'appelle, est-ce que tu connais pas un spécialiste pour ci ou pour ça ? Et je m'aperçois qu'effectivement, dans tous les milieux dans lesquels il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup d'hypochondrie qui est une forme d'expression du stress tourné vers soi-même.
Vous coupez des séquences quand parfois vos invités vont trop loin ? Qu'est-ce que vous avez coupé par exemple ?
Non, on coupe pas des séquences quand les invités vont trop loin. Moi, la règle dans Ça sortira pas d'ici, c'est de ne jamais aller vers le secret médical. C'est-à-dire que je ne vais pas chercher les gens sur des cancers ou des choses comme ça. Claudia Tagbo a tenu à nous parler elle-même de son cancer du sein. Donc à ce moment-là, parce qu'elle pense que ça peut aider les femmes qui en ont un, je vais continuer à l'interroger là-dessus. On a simplement une règle, c'est que si à la fin du tournage, quelqu'un nous dit « j'ai dit ça, mais j'aimerais bien que vous l'enleviez parce que ça m'embête un petit peu », on le fait. On est dans une émission bienveillante. Voilà, on a eu à le faire deux fois. Je ne vous dis pas qui, parce que sinon, ce sera révélé.
Mais le thème, le genre de choses que vous avez coupé ?
On a coupé une fois où quelqu'un nous a fait part de sa première expérience homosexuelle et qui engageait, lui, il s'en foutait, mais ça engageait quelqu'un d'autre qui pouvait, qui s'était marié après avec une femme et il ne voulait pas que ça puisse entraîner de soucis. Donc on le fait volontiers. Enfin, je veux dire, on n'est pas là, ce n'est pas une émission qui cherche le sensationnalisme. On n'est pas là pour faire du buzz. On est là pour que les gens se sentent bien. Et d'ailleurs, ce qui est très étonnant dans cette émission, mais je suis même étonné moi quand je l'anime, c'est qu'on a des gens qui nous parlent d'eux, mais on a l'impression, et ils me le disent d'ailleurs, qu'ils oublient qu'ils sont à la télé et qu'ils ont face à eux un médecin. Et donc c'est comme s'ils étaient en consultation, sauf encore une fois qu'il y a une ligne très très claire qui est le secret médical.
Vous avez également été annoncé, Michel Simès, dans le Live, qui est la nouvelle chaîne lancée par le groupe Webedia. Il y a eu des retards à l'allumage le premier jour des petits pépins techniques. Vous avez démarré vous-même vous faites quoi alors ?
Alors, on a démarré nous-mêmes. Ça me fait marrer un petit peu ce bashing qu'il y a eu au départ. Il y a eu des problèmes techniques.
Bashing. Si ça plante, ça plante. Non, mais, je viens de Canal Plus. Quand ça plantait, ça plantait.
Non, mais ça plantait. Et Webedia a dit oui, on a eu des problèmes techniques. Ça n'a pas été synchro entre l'image et la parole. Il y a eu peut-être des petits dérapages humoristiques qui ne sont pas passés. Bon, et il n'y a pas de souci. Mais en même temps, Webedia a pris le risque de lancer quelque chose. Et au lieu de souligner le fait que Webedia ose faire des choses, il y a un bashing. Alors après, moi, j'ai lancé.
Je vais défendre les gens qui ont accusé Webedia. Quand il y a eu le problème de traduction sur l'interview de Carlos Ghosn des chaînes d'info, tout le monde y est allé, on a parlé. Et quand il y a eu l'arrestation du vrai-faux du pont de Ligonnès, c'était pareil.
Je suis d'accord
avec vous,
Philippe.
Ça fait partie de ce métier. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est vous. Qu'est-ce que vous y faites ?
Je vais vous le dire, mais sauf, et je vais répondre à votre question, sauf que vous savez très bien que Webedia fait peur parce qu'ils vont être les premiers. Ils ont une force de frappe extraordinaire. Ils lancent une chaîne, le Live, qui va faire mal et qui inquiète tous les grands groupes qui, eux, n'ont pas réussi à le faire. On va passer à mon émission. Mon émission, ce n'est pas la mienne, c'est celle que je présente avec Julien Méniel, qui est un infirmier qui fait beaucoup de choses sur le net, et avec Marine L'Orphelin, l'ancienne Miss France, mais qui est interne en médecine aujourd'hui. Voilà, ça s'appelle Dr Good, parce que c'est la marque qu'on est en train de développer sur le digital. Et cette émission, on a fait la première mercredi. Elle est un mercredi sur deux de 20h à 21h. Et c'est une émission interactive. On a commencé par le Safe Sex pour les jeunes qui nous regardent. Et c'est une émission interactive dans laquelle on répond à toutes les questions des internautes, et on a déjà fait la meilleure audience sur la première de toutes les émissions qui avaient été diffusées sur le Live. Donc voilà, c'est une émission géniale, c'est la télé. Vous avez fait de la télé à Canal, vous avez fait tout ça, c'est la télé sans la télé. C'est-à-dire que c'est une facilité, un confort. On est tous les trois sur des fauteuils, on se marre, c'est ouvert à tout. J'ai mon iPad sur moi, pour si jamais, et ce qui est arrivé, il y a une question à laquelle je ne sais pas répondre, je ne suis pas encyclopédique, ni ouais. Julien, ni Marine, et on s'est éclaté, ça a super marché, et on va continuer à le faire tous les 15 jours.
Vous avez également été annoncé, Michel Simès, dans la liste des guests de la nouvelle série hospitalière de TF1, H24, est-ce que vous confirmez ?
Je confirme que je ne l'ai pas fait. J'ai été annoncé, j'avais donné mon accord, mais c'est un peu compliqué, vous savez, on ne va pas faire langue de bois, c'est un petit peu compliqué pour moi, alors que j'ai des accords d'exclusivité avec France Télévisions, d'aller sur d'autres chaînes. Je m'étais engagé un petit peu rapidement et je m'en excuse auprès des producteurs.
Vous avez vu que la série a enflammé les réseaux sociaux, notamment les professions médicales qui se sont beaucoup amusées, gossées du nombre d'erreurs qu'on pouvait voir à l'antenne. Par exemple, un patient intubé par le menton, vous avez vu ça ?
Intubé
par le menton. Ah, et alors une image.
Effectivement, ils ont un problème de conseiller scientifique. J'ai bien fait de pas y aller.
Attendez. Et l'image la plus forte, c'est quand même une transplantation cardiaque. On enlève le cœur d'un patient, on le met dans le récipient idoine,
de conservation,
qu'on met ensuite dans une glacière. Ouais. Et pendant qu'il est dans la glacière, il y a encore l'oscilloscope qui fait pip 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 avec le cœur qui bat.
Le cœur du.
Oui.
Alors. C'est vrai qu'un cœur retiré continue à battre un petit peu.
Non, mais sans les électrodes.
Ah, il continue à battre. Non, mais même dans une façon, dans une glacière, il continue pas à battre puisqu'il est, il est sidéré.
En plus, il est congelé. Il est en état de sidération.
Il est en état de sidération. Donc, il y a quelques. Eh ben, écoutez, je suis content. Je suis content de ne pas y être allé.
Dr Good, c'est aussi un magazine.
Oui, Dr Good, c'est plus. Alors, c'est le magazine qui cartonne. C'est une déclinaison nutrition, alimentation, c'est bon. C'est une déclinaison enfant, Dr Good Kids, qu'on a lancé, qui cartonne aussi. Et ça va être une déclinaison veto pour les gens qui ont des animaux, des chiens et des chats. Et je vais faire ça avec Hélène Gâteau. Et on va faire Dr Good veto. Et oui, on prend.
Génial.
Et on est en train de, effectivement,
mais vous allez
de développer.
Vous allez faire des mugs et des robes de chambre.
Ce qu'on fait, c'est qu'on va développer, pourquoi pas, on va développer la marque Dr Good. On a une newsletter aujourd'hui qui a été lancée il y a quelques mois et qui a 50% d'ouverture, ce qui est complètement considérable.
Un immense merci Michel Simès pour votre présence. Je rappelle, les pouvoirs extraordinaires du corps humain, ça sera consacré au froid. C'est ce soir à France 2, sur France 2 à 21h. Pardon, Culture Média continue après le rappel des titres de 10h. On va évidemment parler culture avec l'humoriste Walidia, qui est en tournée en ce moment avec son spectacle Ensemble ou Rien, c'est un joli titre. Hélène Manarino nous dressera son portrait inattendu. Et puis dans les indispensables, une série Netflix avec Margot Barallon et un livre magnifique qui a ému Nicolas Carreau.